Il est 19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, le point sur la crise en RCA. Au Mali, le général Sanogo entame une grève de la faim. Il proteste contre ses nouvelles conditions de détention.
Il y avait un manque d'électricité dans sa chambre, manque de certaines commodités, des toilettes qui sont très loin de la chambre. Après constat, Amadou Aya Sanogo, selon l'un de ses avocats, a refusé de manger.
Les étudiants sont en grève au Gabon et au Tchad. Human Rights Watch dénonce l'exploitation des talibés au Sénégal.
Une dizaine de milliers d'enfants qui sont obligés à mendier et s'ils ne parviennent pas à obtenir le quota, ils sont souvent battus, ces enfants enchaînés.
Afrique du Sud, le président est sommé de rembourser des millions de dollars irrégulièrement alloués à la réfection de sa résidence privée. Nous ferons aussi le point sur la crise ukrainienne. Est-ce un retour à la guerre froide? Sans oublier nos pages sport et musique. Mais avant, le journal.
Oui, en RCA, des tirs à l'arme lourdes et automatiques et des explosions de grenades ont secoué plusieurs quartiers du sud de la capitale hier. Aujourd'hui, c'est le porte-parole des anti-Balaka qui a mis en garde contre les rumeurs d'une possible attaque de miliciens sur le quartier musulman du PK-15. On fait le point avec Nicolas Pinault.
Oui, ce mercredi a été plutôt calme dans le 3e arrondissement de Bangui. La circulation a repris et certaines familles ont regagné leur habitation. Une manifestation des jeunes du quartier Béarex contre ce qu'ils appellent la passivité des soldats burundais de la MISCA s'est soldée hier par un blessé par balle parmi les manifestants. Depuis 48 heures, des rumeurs d'une éventuelle attaque des anti-Balaka sur le quartier musulman de PK5 courent dans la ville. Pour la coordination des anti-Balaka, ces rumeurs sont de nature à perturber la quiétude de la population. Écoutons émotion Brice Namsio, il est le porte-parole adjoint de cette milice.
Ce n'est pas tout une réalité parce que justement, je viens au nom de notre coordonnateur, Edouard Patrice Ngassona, pour tenir informé la population centrafricaine, soit bonguissoise, tout entière, qu'il n'y aura pas d'attaque au niveau Kemeteng. Parce que justement, le peuple a trop souffert, on a besoin de la paix. J'en profite pour demander à nos frères musulmans qui détiennent devant eux des armes, de chercher à se désarmer eux-mêmes. Parce que justement, nous n'avons pas besoin de ce conflit. Ces auteurs de ces rumeurs, nous les cherchons pour le moment afin de leur mettre la main dessus. Nous allons passer devant la justice de notre pays.
C'est dans ce contexte que Nevi Pillay, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, poursuit sa tournée de 72 heures en Centrafrique. Elle s'est entretenue ce mercredi avec les leaders de la société civile à Bangui.
Au Mali, Amadou Aya Sanogo, transféré, a été de l'école de la gendarmerie de Bamako vers Sélingué, une ville située à 120 km de Bamako. Face aux conditions de détention, le général 4 étoiles a entamé une grève de la faim dès son arrivée à Sélingué. Écoutons notre correspondant Kassim Traoré pour plus de précisions.
Le général Amadou Aya Sanogo, en détention depuis le 25 octobre suite à son interpellation dans l'affaire des Béréaux Rouges par le juge d'instruction Yaya Karambé, a été transféré à 120 km de Bamako, plus précisément dans la ville de Sélingué. Ce transfert demandé par le juge d'instruction n'avait pas été possible la semaine passée. C'est ce mardi 18 mars 2014 qu'ils ont transféré l'ancien homme fort de Kati à Sélingué. Dès son arrivée, il n'a pas apprécié les conditions de détention du nouveau lieu, car il y avait un manque d'électricité dans sa chambre, manque de certaines commodités, des toilettes qui sont très loin de la chambre. Après constat, Amadou Aya Sanogo, selon l'un de ses avocats, a refusé de manger avant de décider d'observer la grève de la faim. D'après son avocat, il est inadmissible que leurs clients restent dans ces conditions inhumaines. Ce matin, les autorités militaires en charge du dossier de transfert des militaires est allé sur place à Sélingué afin de voir ce qu'il y a lieu de faire. Sur place, ils ont été butés à un refus catégorique du général Amadou Aya Sanogo qui veut continuer avec sa grève de la faim. Et cela sans aucune assistance médicale. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Au Gabon, l'université Omar Bongo de Libreville reste paralysée. Cela fait des mois que les étudiants demandent le paiement de leur bourse d'études, entre autres. Augustin Oyonnet, membre de la société civile et enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo.
La situation est complètement chaotique. Les activités pédagogiques sont interrompues à l'université Omar Bongo du fait que les forces de l'ordre sont omniprésentes, ont complètement envahi le campus universitaire. Cela veut dire, en quelques mots, que les franchises universitaires ne sont pas respectées. Les étudiants sont violentés, il n'y a pas de sérénité du tout. Et la seule réponse que le gouvernement a trouvée, c'est la répression, la répression, la répression. Les négociations ne sont pas prévues, à mon sens, parce que voyez-vous, pour qu'il y ait une négociation, il faut que les deux parties s'accordent sur les modalités et les principes d'une négociation. Les raisons de la grève sont simples. Les étudiants demandent le paiement des bourses d'études. Les arriérés se sont accumulés depuis à peu près 6 à 7 mois. Les étudiants vivent donc dans la précarité, dans la misère la plus totale.
Voilà, c'était Auguste Oyonnet, ancien chercheur à l'université Omar Bongo, joint à Libreville.
Au Bénin, le front des syndicats des trois ordres de l'enseignement, l'un des piliers de la grève illimitée qui ferme les portes de l'école béninoise 3 jours sur 5, vient de lever sa motion. Une décision dénoncée par certains membres du front et d'autres organisations syndicales.
La fièvre de Lassa a été circonscrite en Guinée. C'est du moins ce qu'annonce le Centre international des infections tropicales situé en Nzérékoré, le chef-lieu de l'épicentre de la maladie. Les médias ont rapporté que cette fièvre mystérieuse causait des ravages dans la ville de Gekedou et ses environs. Docteur Mamadi Koulibaly, joint à Nzérékoré, fait le point au micro de Jean-Roger Billon.
Depuis déjà 2 ou 3 jours, nous n'enregistrons pas de nouveaux cas et nous pensons que la chaîne est rompue. Nous sommes à l'hôpital régional de Nzérékoré et nous pensons que la chaîne est rompue. La fièvre de Lassa a un degré de diffusion de 22% de tous les cas fébriles que l'on peut recenser sur le territoire national guinéen.
Alors combien de personnes ont été touchées jusque-là? Quel est le bilan?
8 cas de décès, oui. Nous avions recensé 13. Les services de santé de l'hôpital régional et même des postes de santé dans les villages les plus reculés sont constamment informés pour qu'à leur tour, ils informent les communautés villageoises sur la manière de se comporter pour éviter ou pour limiter tout au moins la contamination. Ce procédé porte parce que à l'hôpital, les cas qui venaient il y a 3 ou 4 jours sont presque absents maintenant.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Ukraine, les forces pro-russes ont pris le contrôle du QG de la marine de guerre ukrainienne en Crimée. Précision chez Rubin Dorcil.
L'occupation des locaux situés à Sébastopol intervient au lendemain de la signature d'un traité entre Moscou et les autorités locales pour l'annexion de la Crimée. Selon des témoins, au moins 200 éléments non armés des forces d'autodéfense sont entrés dans la base ce mercredi et ont hissé le drapeau russe. Les militaires ukrainiens n'ont pas résisté et ont été vus en train de quitter l'établissement. Les agents de presse russes, citant les sources du bureau du procureur de Sébastopol, disent que le commandant de la marine de l'Ukraine, Sergei Gaïdouk, avait été détenu temporairement après avoir quitté le quartier général de la marine. Par ailleurs, à Simferopol, la capitale régionale, un militaire ukrainien et un milicien pro-Moscou ont été tués hier lors d'un échange de tirs. Dans un référendum dimanche, la région, dont la majorité de la population est d'ascendance russe, a voté en faveur de l'annexion de la Crimée à la Fédération russe. En visite en Lituanie, le vice-président américain Joe Biden a déclaré que la Russie fera face de plus en plus à un isolement économique et politique tant qu'elle poursuivra son agression en Ukraine.
Le mystère reste entier autour du Boeing 777 de Malaysia Airlines. Plus d'une semaine après sa disparition, les proches des passagers s'impatientent. Ils accusent la compagnie aérienne, le gouvernement malaisien, de ne pas dire la vérité. En face, les autorités malaisiennes tentent de faire face à une situation sans précédent dans le pays. Le point avec Lionel Gaïma.
Certains témoignages nous amènent vers les Maldives. Des personnes affirment avoir vu un avion volant à basse altitude près de ces îles dans l'océan Indien à une heure correspondante à celle de sa disparition. Une piste que le gouvernement n'exclut pas. Les autorités de Kuala Lumpur n'écartent pas non plus la possibilité d'une défaillance mécanique. Les thèses évoquant le suicide du pilote, le terrorisme et la piraterie aérienne sont aussi étudiées. Des recherches sur les antécédents de 239 personnes à bord sont également en cours. mais d'après le ministre malaisien de la Défense, il n'y avait rien à signaler pour la majorité d'entre eux. Seuls 3 passagers ont retenu l'attention des enquêteurs, 2 Ukrainiens et 1 Russe. Les autorités attendent d'avoir plus d'informations à leur sujet. De même, rien ne permet de mettre le pilote en cause. Le simulateur de vol retrouvé chez lui et ses emails n'indiquent pas qu'il aurait délibérément détourné le vol de sa destination initiale Pékin. Toutefois, des informations ont été effacées du simulateur de vol et les experts tentent de le retrouver.
Escalade de la violence entre Israël et la Syrie, les forces israéliennes ont mené des frappes aériennes contre des positions militaires syriennes sur le plateau du Golan. L'attaque a fait 1 mort et 7 blessés parmi les soldats. Un bilan confirmé par la Syrie. Ces dernières frappes sont intervenues en réponse à une attaque mardi contre les forces israéliennes sur la ligne de cessez-le-feu israélo-syrienne. Le Tsahal dit avoir visé un camp d'entraînement de l'armée syrienne, un siège militaire et des batteries d'artillerie. C'est le 3e incident de ce type en moins de 2 semaines le long des frontières nord d'Israël.
Nucléaire iranien, les négociations débutées hier à Vienne ont été ajournées. L'Iran et les 6 puissances mondiales anticipant à la rencontre ont toutefois qualifié les discussions de substantielles et utiles. Les pourparlers reprendront le 7 avril prochain à Vienne. Rappelons que le groupe P5+1 rassemble les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et l'Allemagne.
Sachez aussi que le plus grand constructeur automobile au monde, Toyota Motor Corporation du Japon, a reconnu avoir délibérément induit le public en erreur il y a plusieurs années concernant des problèmes de sécurité dans ses voitures. Toyota a accepté de payer une amende de 1,2 milliard de dollars aux États-Unis pour éviter une poursuite criminelle. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Diriec et Bagassi Koura. Cap sur le Tchad, où les étudiants sont en grève. Le mot d'ordre a été lancé pour 3 jours par l'Union nationale des étudiants tchadiens, la principale organisation estudiantine du pays. Cette grève vise à dénoncer les récentes répressions policières lors d'une manifestation des étudiants et l'exclusion de 22 d'entre eux de l'université. De N'Djamena, le reportage de François Djekombe.
Tout est parti d'une manifestation des étudiants pour réclamer leur relevé de notes, pouvant leur permettre de retirer leur diplôme. Se rendant à la faculté des sciences exactes et appliquées de Farsha pour s'enquérir du problème, le ministre de l'enseignement supérieur aurait été séquestré par les étudiants. C'est alors que la police a fait une descente musclée pour disperser les étudiants à coups de gaz lacrymogène, blessant et arrêtant certains d'entre eux et libérer ainsi le ministre. 2 jours plus tard, 22 étudiants sont radiés de l'université du Tchad suite à cet incident. Docteur Ali Abderrahman Agar, recteur de l'université du Tchad.
Nous sommes dans cette université 12 000 personnes et la vie de 12 000 personnes ne peut pas être remise en cause par une équipe qui n'a pas compris pourquoi elle est à l'université. Sur la liste de 22, il y a des étudiants qui ont fait 9 ans à l'université. C'est une décision qui est prise pour permettre à l'université de fonctionner normalement.
L'Union nationale des étudiants tchadiens, UNET, proteste contre cette radiation et exige la réhabilitation pure et simple de leurs 22 camarades. Abakar Alamine Dangaya, président de l'UNET.
Actuellement, l'attente de tous les étudiants, c'est la réhabilitation sans condition de nos camarades, puisque pour radier ou bien sanctionner un étudiant, il y a au moins une procédure à suivre. Cette procédure, c'est de convier les étudiants ainsi que leurs représentants au conseil de discipline, chose qui n'a pas été faite. C'est ce qui a suscité de plus le mécontentement des étudiants. Mais actuellement, dans nos discussions avec les administrateurs académiques, pour eux, il n'y a pas l'annulation de la décision. L'annulation de la décision n'est pas envisageable.
La grève de 3 jours entamée lundi s'expire ce mercredi. Jeudi matin, l'UNET convoque les étudiants à une assemblée générale pour décider de la reconduction ou non du mouvement d'humeur. Mais selon le président de l'UNET, les 22 étudiants, en plus de la radiation, sont traqués chez eux à domicile, ce qui oblige certains d'entre eux à trouver refuge chez leurs camarades membres du bureau exécutif. Ils demandent que cessent les menaces à l'égard des étudiants. N'Djamena, François Djekombe, La Voix de l'Amérique.
Au Sénégal, Human Rights Watch s'indigne contre l'exploitation des talibés. Dans un rapport paru aujourd'hui, l'organisation dénonce les mauvais traitements qu'infligent les marabouts aux enfants venus étudier dans les écoles coraniques. Malgré des avancées au plan législatif, des sévices, voire des tortures persistent. Matt Wells a été joint à Dakar par Nathalie Barge.
Oui, il y a toujours des dizaines de milliers d'enfants qui sont obligés à mendier pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures chaque jour. Et s'ils ne parviennent pas à obtenir le quota, ils sont souvent battus très brutalement. Donc il y a un système qui a été créé pour exploiter les petits-enfants sous prétexte de l'éducation religieuse. Bon, il y avait des avancées. Le gouvernement a rédigé un projet de loi de réglementer les écoles coraniques. Mais il faut dire en même temps que l'État reste un peu réticent à appliquer des lois qui existent déjà, qui criminalisent la mendicité forcée. Et pendant les derniers 2 mois, il n'y avait qu'une seule arrestation et poursuite. Donc beaucoup reste à faire parce qu'il y a, comme j'ai dit, des dizaines de milliers d'enfants qui sont dans des situations complètement inacceptables et déplorables. Moi, j'ai parlé avec beaucoup d'enfants victimes de sévices complètement déplorables. Des enfants qui sont battus avec des fils électriques, avec des bâtons, jusqu'à le bâton se casse. Des enfants enchaînés, forcés à rester dans des positions douloureuses pendant des heures, voire même une journée.
Est-ce que des parents ont déjà porté plainte pour un enfant qui aurait été torturé par un marabout?
Dans la plupart des cas, non, il n'y a pas de plainte. Mais ça aussi, c'est le rôle des représentants du gouvernement qui sont sur le terrain. Il y a des travailleurs sociaux du gouvernement qui chaque jour voient devant eux des enfants qui ont été torturés, des enfants qui ont été battus brutalement. Et souvent, ils n'apportent pas ces dossiers aux autorités judiciaires. Et c'est pour ça, en fait, que je pense que le gouvernement doit faire davantage pour collaborer avec les autorités religieuses qui sont prêts à soutenir le gouvernement de s'attaquer à ce fond d'exploitation pour montrer à la société en général qu'en fait, ce n'est pas du tout la religion et c'est les autorités religieuses qui ont dit ça dans une manière très forte.
Voilà, Matt Wells de Human Rights Watch à Dakar.
L'agence anti-corruption d'Afrique du Sud exige du président Jacob Zuma qu'il rembourse en partie 23 millions de dollars irrégulièrement alloués à la réfection de sa résidence privée dans la province du KwaZulu-Natal. Selon la médiatrice Thuli Madonsela, ces fonds vont au-delà de ce qui est nécessaire pour la sécurité du président. Un rapport publié aujourd'hui montre que le président n'avait pas vu d'objection à ses dépenses. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint le professeur André Thomas Chaosen de l'Institut du droit international et comparatif de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
Ce n'est pas du tout proche d'une ville. Alors, il a fallu construire une rue, une route. Il a fallu transporter de l'énergie, l'eau, des services. Et évidemment, comme président, même dans sa retraite, il a droit à la protection, un niveau de vie protocolaire, c'est-à-dire il a dû construire des facilités pour les agents de sécurité et pour les services nécessaires pour maintenir son statut. Ce que l'opposition critique, c'est qu'il paraît que ces dépenses n'ont pas été faites d'une manière sage et prudente, et qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été perdu avec des contrats inutiles, et même, il paraît que beaucoup d'argent a été perdu dans l'exécution des travaux. Ce qui est vrai, c'est qu'à la fin de tout ça, il y a un petit village avec une maison protocolaire principale du président, et encore une douzaine d'autres bâtiments, inclut une très grande piscine qui a été déclarée comme un réservoir de l'eau pour l'éventuel combat à des incendies. C'est-à-dire qu'il y a eu des abus.
Que dit le président à ce sujet?
Bon, le président lui-même n'a pas répondu. Il a fait savoir à travers du ministre des Travaux publics et du patrimoine de l'État, il a fait savoir qu'il, comme président et aussi comme futur président dans la retraite, il a le droit à un certain protocole, à un certain niveau de vie et à une sécurité personnelle qui ont nécessité ces dépenses.
L'Alliance démocratique, le bloc de l'opposition, entend poursuivre cette affaire au Parlement. Jusqu'où pourrait-elle aller?
Je pense pas que... Bon, en principe, le président d'Afrique du Sud ne rejouit pas d'immunité. C'est-à-dire qu'il pourrait être tenu responsable dans une procédure légale. Il faudrait que le ministre responsable, le ministre des Travaux publics, exige évidemment un paiement du président dans sa qualité personnelle. Et je doute fortement que dans les circonstances présentes, cela pourrait arriver.
Le professeur André Thomas Sausen de l'Institut du droit international et comparatif de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
Jacques Aristide avec vous, changement de programme. Ce jeudi, nous vous proposerons un Washington Forum spécial Centrafrique et nous reviendrons très bientôt sur les médicaments génériques. Demain, rendez-vous avec Nicolas Pineau et ses invités, trois leaders religieux centrafricains de passage à Washington.
Crise ukrainienne, le secrétaire général de l'ONU quitte New York ce mercredi pour Kiev et Moscou dans l'espoir d'aider à trouver une solution diplomatique à l'annexion de la Crimée par Moscou. En attendant, deux camps se font face avec d'un côté les pays du G7 et de l'autre la Russie. Est-ce un retour à la guerre froide? Timothée Donangmaï a posé la question à Yves Boyer. Il est directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et professeur à l'Institut d'études politiques de Paris.
La guerre froide, c'était un contexte stratégique bien particulier avec deux groupes de pays. Le premier groupe conduit par les États-Unis, le second conduit d'une main de fer par la URSS. Avec des divisions idéologiques très profondes. On n'est plus du tout dans ce contexte-là. Moi, je dirais qu'on est plutôt dans un contexte de retour de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire au sens très traditionnel, avec des enjeux de puissance. Et la crise ukrainienne ou la crise de Crimée, c'est le retour de l'histoire.
Les menaces et même les sanctions des pays occidentaux n'ont pas empêché la Russie d'annexer la Crimée. Quelle est la prochaine étape?
D'abord, il y a à dire que dans cette partie de bras de fer, la communauté internationale n'est pas nécessairement calée sur les décisions prises par les Occidentaux. La Chine a été remerciée par Vladimir Poutine hier dans son discours, ainsi que l'Inde. Donc on a deux très grands pays qui ne sont pas du tout dans une posture hostile à la Russie. Donc quand on dit que la communauté internationale isole la Russie, je pense que c'est une appréciation objectivement fausse. Deuxième réponse, je crois qu'il faut calmer le jeu parce que de fil en aiguille, on pourrait se retrouver face à une situation extraordinairement dangereuse et tendue. Et la Russie est une puissance nucléaire, donc on n'en est pas de là, évidemment. Mais je crois qu'il faut agir avec modération. Ça ne veut pas dire qu'il faille abandonner les positions occidentales. Simplement, je crois qu'il faut une certaine retenue de part et d'autre du côté occidental pour ne pas embrayer nécessairement le pas à tout ce qui est dit par les autorités de Kiev et par toutes les pressions qui sont exercées par les Polonais et les Pays-Baltes, notamment sur Washington. Et puis du côté russe, il faut également peut-être calmer le jeu.
Pensez-vous que la Russie pourrait être amenée dans l'avenir à restituer la Crimée à l'Ukraine?
Vu d'Europe, vu de France, je pense que la Crimée fait partie du panthéon patriotique russe. Je vois mal une autorité russe, quelle qu'elle soit, rétrocéder à l'Ukraine la Crimée, qui elle-même avait été rétrocédée à l'Ukraine en 1954 par Khrouchtchev, du temps où les Soviétiques régnaient sur toute cette région. Donc je vois mal, compte tenu de l'histoire de la Crimée et de l'histoire de la Crimée dans l'histoire de la Russie, les Russes rendre ou recéder la Crimée à qui que ce soit, y compris à l'Ukraine.
Voilà, c'était Yves Boyer, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et aussi professeur à l'Institut d'études politiques de Paris.
Wow. Allez, c'est l'heure des sports en football, suite et fin des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions.
Oui, les deux derniers qualifiés seront connus ce soir même à l'issue des matchs qui sont en cours en ce moment. Manchester United contre l'Olympiakos, le Pirée, et Dortmund, Zenith Saint-Pétersbourg. Hier soir, Chelsea de Samuel Eto'o a éliminé Galatasaray de Didier Drogba en s'imposant par 2-0. Après avoir défait Schalke 04 par 6-1 à l'aller, le Real Madrid a remporté le match retour par 3-1. Le Real et Chelsea retrouvent donc en quart de finale l'Atlético Madrid, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et Barcelone. Le tirage au sort des quarts de finale est prévu vendredi.
Alors, en NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, Miami a battu Cleveland 100-87. Nouvelle défaite de Toronto face à Atlanta, 113-118. Victoire de Portland sur Milwaukee, 120-115. Sacramento l'a emporté face à Washington, les Washington Wizards d'ici donc, 117-111. Et enfin, cette victoire des Golden Gate Warriors contre Orlando, 103-89.
Voilà, c'est l'heure de notre page musicale et ce soir, on écoute Sekouba Diabaté, un chanteur guinéen issu d'une famille de griots. Le titre, c'est Sinon Tena.
Manolima, Bambino, examen de conscience.
On écoute Sekouba Bambino sur Sekouba Diabaté, pardon, sur la voix de l'Amérique. Sekouba Diabaté, il faut dire qu'il a rejoint l'orchestre national, le Bembaya Jazz, à la demande expresse du président guinéen d'alors, Ahmed Sékou Touré.
Voilà, c'était Sinon Tena, Sekouba, Bambino Diabaté, Bagassi. Vous n'aviez pas tort en disant qu'il s'appelait Bambino. Voilà, donc écoutez, ainsi s'achève notre émission. Merci de nous avoir suivis. Georges Léonard Sagnot a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec.
Et Bagassi Koura.
Voilà, et je ne vous dis pas demain puisque je pars en vacances au Mexique.
À demain.